entend aujourd'hui dire toujours que la prison est surchargée. Et c'est vrai, moi j'ai connu la prison de Fleury-Mérogis avec un détenu par cellule. Le bâtiment a été conçu pour une personne. Et puis petit à petit, devant cette augmentation, surtout dans les années 80, on a fini par mettre deux lits. Aujourd'hui, ce qu'on n'a jamais étudié, c'est que quand on surcharge une population, on n'augmente pas le personnel. Donc le surveillant qui ouvre la porte, il se trouve seul devant deux personnes et répond à deux personnes, souvent dans des moments d'angoisse, de complications de situation, de détresse. Et bien, c'est difficile. Il ne faut pas s'étonner aujourd'hui du mouvement qu'il y a. Devant l'augmentation des tâches qu'on demande aujourd'hui suite à l'évolution, suite à tout ce qu'on peut dire sur les prisons, qu'on s'offusque de ceci ou cela. Oui, mais on oublie une chose, c'est que ce sont des êtres humains et qu'un être humain, on ne répond pas avec un ordinateur. On répond d'homme à homme, d'être à être. Et ça, je pense que notre société qui veut de la rentabilité n'a jamais pensé à ces détails de vie quotidienne qui font que les surveillants, au bout d'un moment, sont très fatigués et puis craquent.
On a l'impression que chaque année, finalement, c'est de nouveau le problème. La France se fait épingler en disant que pour une démocratie, elle n'a pas les prisons dignes de ce nom. Comment vous expliquez que finalement, rien ne change au fil des années?
Parce que les lois qu'on fait aujourd'hui ne prennent pas en compte un certain nombre de choses. Nous prenons l'exemple des peines planchers aujourd'hui. Bon, c'est-à-dire qu'on met le double, les récidivistes. Ben oui, mais ces gens-là vont occuper des cellules plus longtemps. Et le problème, s'ils récidivent, c'est qu'il y a une raison. Alors, c'est pas parce qu'on demande aux gens d'aller voir un psychologue, d'aller voir celui-ci, d'aller voir celui-là, d'avoir un agent NPE, que ça va répondre au problème de fond. Le problème, on sait très bien que personne ne veut récidiver. Moi, en 30 ans, je n'ai jamais vu quelqu'un qui voulait revenir en prison. C'est parce que c'est sa vie qui a été conditionnée pendant quelques années par une histoire familiale difficile, par des rencontres qui fait que quand on est dans la drogue, par exemple, ce produit, vous le traitez pas comme ça du jour au lendemain. Il vous faut des années de prise en conscience. On le voit bien dans tous les gens, de toutes les associations qui s'occupent de gens en difficulté. On résout pas ça d'un coup de baguette magique. Il faut beaucoup de temps, il faut de la patience, il faut reprendre constamment. Mais si la seule réponse qu'on donne, c'est la répression, qu'est-ce que vous voulez? On surcharge et puis c'est toujours plein. On met pas de personnel, alors qu'est-ce que vous voulez? On tourne en rond, on n'est pas du tout cohérent entre notre discours et la pratique.
Père Gismier, justement, je voulais savoir un petit peu quelle est votre mission d'éducateur. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous expliquer un petit peu quel est votre travail auprès des gens des prisonniers?
C'est intéressant que ce soit votre radio qui m'interviewe, parce que figurez-vous que j'écoute beaucoup les interviews qu'on fait à gauche, à droite. Jamais on n'a parlé des éducateurs. Jamais on n'a parlé des conseillers d'insertion qui passent leur journée à l'intérieur des murs pour essayer, avec les moyens qu'on leur donne, d'essayer d'humaniser. Et l'humaniser, c'est d'abord de rencontrer. J'essaye de rencontrer les détenus qui demandent à être reçus, parler avec eux, essayer de comprendre pourquoi ils sont là, essayer de les aider à intégrer dans leur histoire cet événement qui est la prison. Et puis tout de suite de positiver en ce sens, d'essayer de poser un acte qui va permettre de regarder l'avenir autrement pendant qu'on est en prison, c'est-à-dire accepter de se soigner, accepter d'aller à l'école, accepter d'aller au travail pour essayer de récupérer quelques points de repère pour plus tard. Ça ne va pas tout régler. Mais utiliser ce cadre ferme qu'est la prison, puisqu'ils y sont contraints et que c'est la loi qui les amène, pour que ce cadre-là pose des repères pour eux qui malheureusement n'ont jamais été posés à l'extérieur pour quantité de raisons. Mais la raison de fond, moi je pourrais dire maintenant sur la prison en 30 ans, c'est on vit en prison parce qu'on a une blessure au fond de son cœur qui n'a jamais été soignée.
Vous avez parlé justement de ce monde extérieur. Est-ce que finalement aujourd'hui les problèmes dont on reparle, c'est-à-dire le problème du personnel, de la formation, de la surpopulation carcérale, n'est pas une indifférence ou une incompréhension du monde extérieur de ce qu'est la prison, et à commencer par le gouvernement et le ministère de la Justice? Est-ce qu'il y a des pistes de solutions selon vous pour que les conditions en prison changent?
Vous savez, quand les ministres viennent en prison, ils viennent toujours à grand renfort d'informations. Depuis 1978, je les ai tous vus venir en prison. Mais ils sont tellement encadrés, ces ministres, qu'ils ne se rendent même plus compte qu'on les pousse dans les endroits où on veut leur faire montrer les choses. Et ils ne sont plus au contact de la réalité telle qu'elle est. Un ministre devrait venir un soir inattendu, voilà, sans histoire. Et puis, il voit ce qui se passe. Et puis, je crois que les lois sont quand même pensées par des gens qui n'ont pas de contact avec la réalité. Mais je crois que c'est pas propre aux prisons. C'est dans beaucoup de domaines. Faut critiquer notre système, bien sûr, mais faut aussi lui reconnaître qu'il y a des avancées de réflexion, par exemple, les visiteurs, les associations, les les aumôneries qui se sont étoffées, le Génépi, auquel moi j'étais à la formation au départ, le Génépi, des associations de toutes sortes qui sont quand même pléthores aujourd'hui. Faut être honnête, il y a une quantité, mais il faut être honnête hein, aussi de regarder qui font ces gens-là. Des gens motivés par les autres, donc des chrétiens. Moi, je suis assez impressionné. Alors, c'est sûr que ce sont des gens souvent discrets, on n'en entend jamais parler, ils sont là au quotidien. Moi, je suis en admiration devant certains visiteurs qui sont là deux fois par semaine. Je vois l'association, le service en train de prison, qui est une petite association auquel j'ai participé à la création, avec un visiteur qui, lui, voulait dire « qu'est-ce que je peux faire ?» Et puis, je lui ai dit « on pourrait peut-être faire ça pour ceux qui n'ont rien s'occuper du linge. » Et aujourd'hui, c'est une association qui vient régulièrement, deux fois par semaine, dans chaque bâtiment, qui rencontre les détenus qui n'ont pas de vêtements, qui ne l'aura pas. Et tout ça, ça ne fait pas de bruit, vous voyez. Et ça, il y en a plein comme ça. Vous savez, il y a notre système, mais il y a aussi la force de tout ce qui vit. Et moi, je suis obligé de constater, alors que je suis prêtre, mais moi, je ne m'affiche pas comme prêtre, je ne le dis pas officiellement, puisque je suis un fonctionnaire de l'État. Je ne l'aurais pas dit comme ça il y a quelques années, mais maintenant, j'arrive en fin de carrière, donc je n'ai pas honte de le dire. Moi, je suis en admiration devant tous ces chrétiens, très, très humbles, très discrets, qui viennent passer une heure, deux heures, dans une association, dans un groupe d'aumônerie, et puis qui sont là avec les détenus, dans un cadre permis, bien sûr, puisque lui, il faut que les règles sont quand même très, très strictes pour entrer dans une prison. Ils font un travail de présence ordinaire, extraordinaire. Moi, je pourrais vous citer quantité d'exemples où des détenus ont été très touchés par une visite au cours d'une messe, au cours d'un parloir, quantité de choses, du service en train de prison qui a réglé un problème de clé, des petits détails de rien du tout qui n'apparaissent pas dans les dossiers, qui sont de la vie quotidienne, comme nous, hein, par exemple, qu'on a à régler, on est content de trouver un voisin, un ami qui... Il s'apparaît rien, mais c'est énorme.